Avec les jeunes des écoles bibliques, pendant ce premier trimestre de l'année, nous suivons des prophètes. Et le sujet du jour, c'est le livre du prophète Ésaïe, magnifique prophète, en particulier avec les chapitres 42 et suivants, qu'on appelle le livre de la consolation, qui est si proche, en fait, des évangiles. Donc avec Christina, c'est le chapitre 55 que nous allons donc méditer ce matin. Un certain nombre d'entre nous, les plus âgés ici, et puis les plus jeunes en face. Ô vous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'a pas de pain, qui n'est pas du pain ? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc plutôt et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, dit l'Éternel. Écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David, mon bien-aimé. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, comme commandant des nations. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est tout proche, et que le méchant abandonne sa voie, et que l'homme de rien abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Et puis ensuite, on sait que dans l'Évangile, particulièrement dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus reprend cette annonce dans le chapitre 4 avec la Samaritaine et dans le chapitre 7 avec ces quelques mots que nous dit Jésus, les versets 37 à 39. Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a foi par moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient par lui. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et alors nous vous proposons de commencer à méditer par le chant, le psaume 36, les trois premières strophes, les trois strophes de ce psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime.
Et c'est Toscane qui va nous dire la prière avant la prédication.
Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Aide-nous, afin que dans ce témoignage que nous avons lu dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit. C'est à notre espérance pour qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes.
Il n'y a pas de page dans la Bible hébraïque qui soit plus proche de l'évangile du Christ que cette page du livre d'Ésaïe. La vie nous est offerte en abondance, gratuitement, il n'y a qu'à s'en saisir. Vous tous qui avez faim et soif, venez et trouvez de l'eau, du lait, du vin, du pain. Ces quatre éléments correspondent aux besoins de base de l'être humain. De l'eau pour calmer notre soif, et dans ces pays secs, ça veut dire quelque chose. Du pain pour faire vivre le corps, bien sûr, et puis du lait pour les bébés, qu'ils puissent grandir. Et Ésaïe ajoute le vin. Alors c'est un peu étonnant de compter le vin dans les éléments les plus essentiels, les plus vitaux pour la personne humaine, mais c'est que la personne humaine n'a pas seulement besoin de nourriture pour vivre, elle a aussi besoin de joie. Et rien que cette annonce-là, à mon avis, est un message essentiel. C'est une bonne nouvelle que Dieu se préoccupe aussi fondamentalement que nous ayons un peu, beaucoup de joie dans notre vie. Et tous les désespérés savent combien c'est vital et c'est difficile de trouver de la joie quand ça ne va pas. Ce passage nous invite à nous bouger pour boire et pour manger. N'oublions pas donc, si on écoute ce passage, de nourrir notre être dans toutes les dimensions. Le corps, bien sûr, l'intelligence, la sensibilité aux autres, notre émotion artistique. N'oublions pas non plus d'alimenter notre joie de vivre. Joie de vivre en ce monde. Joie spirituelle aussi, peut-être. Et si notre capacité à être joyeux était trop petite, eh bien, donnons-lui le biberon comme on donnerait du lait à un bébé. Mais parfois, nous n'y arrivons pas. C'est ce que dit Ésaïe, car cet appel « Hola, vous qui avez soif, venez et achetez sans rien payer », Ésaïe l'adresse en fait à une personne dont il parle juste avant, un peu avant, quelques mots avant, le texte que je vous ai lu au chapitre 55. Ésaïe parle à une personne qu'il appelle malheureuse, battue par la tempête, toi que personne ne console. Donc oui, parfois la vie est trop dure et nous n'avons même plus la force de nous lever pour alimenter notre être et encore moins alimenter notre joie de vivre. Parfois le monde est pour nous comme une tempête, un ouragan qui détruit tout sur son passage et met notre vie en danger de mort. C'est là que la solidarité de base peut et doit jouer. La personne humaine est un animal social. Et c'est donc tout naturel de penser à celui qui est dans la tourmente d'une tempête, et de se reconnaître en lui, finalement, de s'identifier à lui. Même si nous voyons, par exemple, un chaton affamé, assoiffé, frigorifié, est-ce que nous n'irions pas lui chercher un peu de lait dans une soucoupe ? Un être humain nous est encore plus proche, infiniment plus proche qu'un chaton. Alors même si nous n'avions pas de sensibilité aux autres et que néanmoins nous ayons quelque respect pour Dieu, eh bien nous pourrions comprendre qu'il aime chacun de ses enfants et qu'il nous demande de nous sentir responsables de notre frère, comme il le dit à Caïn. Et même si nous n'avions rien à faire de Dieu, nous devrions au moins nous occuper du pauvre qui a faim, de celui qui est dans la tempête, car sinon c'est tout simplement notre humanité qui va s'entre-déchirer trop vite. Et donc au moins, par calcul, nous pourrions avoir un geste. Alors et si nous étions néanmoins incapables du moindre geste de compassion pour aider notre frère qui est en manque de nourriture, en manque de joie, alors nous serions un de ces plus pauvres auxquels cette parole d'Ésaïe s'adresse, ballottés par la tempête de sa propre vie, assoiffés par une peur peut-être, ou bien par une colère, ou par quelque chose qui ne va pas en lui. Eh bien Dieu ne se désintéresse pas alors de nous comme si nous étions un méchant irrécupérable. Au contraire, nous dit Ésaïe, Dieu se fait proche. Il essaye de nous réveiller avec des « hello », avec des « hola », avec des « hélas ». Venez vite à moi pour vous ressourcer et vous vivrez. Que le méchant abandonne sa voix, nous dit Ésaïe, nous dit la parole d'Ésaïe faisant parler l'Éternel. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme de rien se détourne de ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Alors dans cet appel, Dieu ne s'intéresse pas seulement aux actes méchants, à l'égoïsme du méchant. Il s'intéresse à la racine du mal en nous, à notre soif profonde finalement, à ce qui peut brûler en nous, car Dieu cherche à éteindre cet incendie. Il s'intéresse à ce qui a faim en nous et qui nous pousse instinctivement à vouloir dévorer les autres autour de nous. Il s'intéresse à un manque de croissance, peut-être à notre côté puéril, irresponsable. Alors avons-nous conscience que notre méchanceté en fait n'est qu'un symptôme, comme le dit Ésaïe, symptôme d'une soif profonde alors que nous la prenons souvent pour un cri de justice. Une soif que nous avons peut-être oubliée, que nous avons enfouie comme un désir qui nous fait honte et qui est en réalité noble et vrai. Vital. Au moins, le désespéré, lui, sait qu'il a soif. Et c'est déjà un avantage, c'est déjà une sagesse, une chance. Car alors, il peut entendre ce cri d'Ésaïe, ce cri de l'Éternel, « Ô vous qui avez soif, venez vers les eaux. » Alors, ça paraît être une logique évidente. Si on a soif, on va trouver le point d'eau le plus proche. Et pourtant. Encore faut-il avoir saisi que notre être profond a soif. Ce n'est pas toujours si évident. Encore faut-il ne pas être trop désespéré pour oser accepter que l'eau existe. Et donc la première étape, c'est d'avoir soif. Ou plutôt de savoir qu'on a soif et qu'on a faim. La deuxième étape est de chercher une source. Il y a 1000 façons de donner du sens à notre vie, 1000 occupations possibles pour remplir le vide de notre vie, des temps qui ne restent à vivre, 1000 façons de combler notre être profond avec toutes sortes de préoccupations, de distractions. Ésaïe nous appelle à réaliser qu'il y a tellement de choses très sympas, mais qui ne nourrissent pas réellement notre être, et que nous achetons pourtant ces choses à prix d'or, parfois, avec frénésie. La foi, c'est choisir Dieu comme source. La foi chrétienne, c'est faire confiance en Christ comme chemin vers cette source, vers cette corne d'abondance qu'est Dieu, pleine d'eau, de lait, de pain et de vin. Alors aujourd'hui, on entend souvent par foi le sentiment de la présence de Dieu. Et donc il y a des gens qui disent « j'aurais bien aimé avoir la foi, mais je n'ai pas la foi ». Mais en fait, il serait dommage de réduire la foi à cette seule dimension. La foi, on le voit ici, et c'est en général le cas dans la Bible, la foi c'est d'abord un choix, celui de tendre l'oreille vers Dieu, un Dieu de qui l'on espère. Parfois on peut confondre aussi la foi à un ensemble de croyances que dont nous devrions être convaincus pour être dans le vrai. Mais celui qui posséderait cela n'aurait plus à tendre l'oreille pour entendre quelque chose d'inouï, puisqu'il aurait déjà la vérité. L'Église, en fait, n'est pas un club de croyants, mais c'est un ensemble de chercheurs, un ensemble de personnes qui veulent s'aider mutuellement à se mettre à l'écoute de quelqu'un qui les dépasse infiniment, Dieu. Des personnes qui osent avoir soif. Alors c'est un courage de reconnaître que l'on a soif et de chercher la source. Il est tellement rassurant de se croire comblé de certitudes, rassuré par un club de personnes bien connues, comblé par un certain matérialisme. Quand on se croit comblé, on est par nature même inconsolable, puisqu'on ne cherche même pas à être consolé. Quand Jésus, torturé, mourant sur la croix, dit « j'ai soif », quand il ajoute « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» même dans son doute, dans son désespoir, dans son erreur, parce que Dieu n'abandonne personne et encore il n'a pas abandonné non plus Jésus, même dans cette tempête de son existence, et on le comprend bien sûr, Jésus tend l'oreille, il va vers la source de la vie, encore il cherche. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, nous dit l'Éternel, le Créateur de l'univers. Écoutez, tendez l'oreille et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de plats délicieux et votre âme vivra. La première étape est donc d'avoir faim et soif, la deuxième est de chercher une source et la troisième est effectivement de boire et de manger à cette source. Regardez, écoutez ces adultes qui demandent le baptême ou qui demandent une profession de foi. 3 par mois en moyenne dans notre Église actuellement. Des personnes qui ont cherché, qui ont exploré, qui ont goûté à cette source et qui ont senti qu'elle était vitale et qui choisissent cette source et qui osent le dire publiquement. Et vous, quand est-ce la dernière fois que Dieu a apporté quelque chose dans votre vie ? Et comment qualifier finalement ce quelque chose que Dieu a apporté dans notre vie ? Comment le reconnaître ? Alors comme l'eau qui calme la fièvre peut-être, c'est ce que nous dit Ésaïe. Comme un pain qui nous donne de la force peut-être. Comme du lait qui nous permet de grandir un peu. Comme du vin qui nous a rendus un peu plus joyeux en vérité. Comme une consolation alors que rien d'autre n'aurait pu nous consoler comme cela, comme cette présence de Dieu. Ésaïe compare l'effet de Dieu pour nous, ensuite, à une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. C'est-à-dire envers ce bien-aimé de Dieu que nous sommes, car David veut dire le bien-aimé. Et donc oui, comme une alliance, comme un lien profond avec la source de la vie. Un lien comme ce lien qu'on peut avoir avec son meilleur ami, avec qui nous nous comprenons à demi-mot, même parfois sans se parler, juste en étant ensemble. Avoir ce lien-là avec Dieu, basé sur une amitié profonde. Un lien qui n'est pas un simple feu de paille d'émotions religieuses d'un instant ou d'émotions intellectuelles, mais une émotion, certes, une intelligence de la réalité aussi, mais une force, une joie qui construit du solide et qui nous permet d'être un peu aux commandes de notre propre existence, de notre propre vie, de rassembler les morceaux de notre existence, de notre être, de l'unifier. Alors Ésaïe compare, en effet, ce que Dieu nous apporte à la conversion du méchant en un homme bon, un homme meilleur. Alors notre méchanceté n'est pas toute mauvaise en fait, parce que dans la méchanceté il y a une énergie, seulement elle est mal placée. Et dans l'indignation de la méchanceté, elle est tournée vers la trahison, tournée vers le meurtre de son frère. Mais quand Dieu aide, cette indignation, cette belle énergie est gardée, mais elle devient bienfaisante, elle devient apaisante, elle devient bienveillante, elle devient joyeuse. Il en est de même pour tout ce qui nous fait souffrir finalement. Le deuil, l'inquiétude, le désespoir présentent une énergie en nous, une énergie qui sera formidable quand elle sera convertie par Dieu, orientée. Et donc ça aussi, c'est un effet de ce souffle de Dieu qui est passé sur nous et que peut-être nous n'attribuons pas à l'Éternel, mais une résurrection, une conversion qui dépasse simplement notre petite suggestion. Alors Jésus, quant à lui, il compare l'effet de Dieu en nous en un jaillissement d'eau vive au plus profond de nous-mêmes. Alors quand il dit ça, c'est incroyablement subversif en fait dans ce contexte du judaïsme où jamais l'homme n'est divinisé à ce point parce que le jaillissement, la source jaillissante d'eau de vie, d'eau vivante, c'est Dieu normalement. Mais c'est de cela dont il est question donc, que cette source jaillissante, elle soit en nous et qu'elle puisse couler de nous finalement, dans ce monde. Non seulement le Christ nous mène à la source qu'est Dieu, non seulement il nous donne à boire à cette source directement, sans l'intermédiaire de prophètes, d'églises, de prêtres, mais il nous transforme nous-mêmes en source jaillissante, en source d'eau vive. Jésus parle même d'un fleuve, pas seulement d'un mince filet ridicule. Et cela veut dire deux choses. D'abord, que Dieu veut nous rendre autonomes. Dans un sens, le but du Christ, c'est que nous puissions de plus en plus nous passer du Christ. C'est ce que nous voyons en fait très souvent dans les récits de l'Évangile où Jésus libère les personnes qu'il a guéries en les renvoyant dans leur propre vie, loin de lui, mais en pleine forme. Eh bien, le salut, c'est ça. C'est bien ça. Ce n'est pas nous maintenir sous perfusion. Bien sûr, nous aurons encore à boire à cette source qu'est Dieu pour faire un pas supplémentaire, mais déjà, nous avons une certaine autonomie, dans le bon sens du terme, comme un enfant qui grandit et s'émancipe progressivement, devient adulte. Alors la deuxième chose que veut dire cette histoire d'un jaillissement d'eau, d'un fleuve d'eau vive qui coule hors du meilleur de nous-mêmes, c'est que nous sommes alors à notre tour capables d'être un peu une source de vie disponible pour telle et telle personne qui nous serait confiée. Une personne dont parle Ésaïe dans cette belle page de son évangile, malheureuse, battue par la tempête, toi que personne ne console. Et donc cette parole du prophète, elle est pour toute personne souffrante, bien sûr, toute personne frappée par la peine, toute personne abandonnée. Parfois, la vie est si dure. Alors ça peut être le cas matériellement, mais alors que peut faire Dieu pour aider matériellement le pauvre qui a faim, pour donner du pain à celui qui a faim, donner de l'eau propre à une famille qui n'a pas un point d'eau potable à moins de quelques dizaines ou centaines de kilomètres. Ce que Dieu essaye de faire pour cette personne en pleine tempête, c'est de lui trouver quelqu'un qui pourra l'aider. Alors la vie peut être fort dure aussi en ce qui concerne le moral. très, très dur. Et aujourd'hui, dans les pays où les dépenses sociales de l'État sont parmi les plus élevées du monde, il y a peut-être que le Danemark de Christina qui nous dépasse, la détresse morale est de loin, je pense, la plus terrible des tempêtes, avec presque 25 morts par jour en France. Alors la première cause de ces suicides, d'après les statisticiens, c'est la solitude. Particulièrement ressentie, bien sûr, face aux difficultés que sont la dépression, la maladie physique, les problèmes de couple ou de famille, les violences subies. Typiquement, une personne malheureuse, battue par la tempête, et que personne ne console, ou que rien n'arrive à consoler, ce qui revient au même depuis vu du point de vue de la personne qui souffre. Alors bien sûr, comme cause de tant de détresse, il y a l'individualisme incroyable qui existe dans nos sociétés, jusque dans nos familles, spécialement dans les grandes villes. Et là encore, Dieu nous envoie, bien sûr. Comme cause à cette détresse massive, il y a un trop grand manque de foi, je le pense aussi. Cela fausse la perspective sur la vie humaine, sur son incroyable valeur, sur ce qu'est le bonheur et sur cette source qui existe. Là encore, Dieu nous envoie dans ce monde. Et si nous prenons les paroles de l'Évangile au sérieux, nous offrirons des dons nourrissants et abreuvants, de l'eau, du pain, du lait, du vin. Et puis à l'image du Christ, puisque de notre cœur aussi jaillit cette source d'eau. Alors oui, le malheureux dans la tempête, l'abandonné, pourra venir et boire sans payer, car c'est nous qui allons le régaler. Nous et notre Dieu, en fait, parce que cette source de l'Esprit en nous n'est pas seulement de nous, il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais pour Dieu comme pour nous, en fait, encore plus pour nous que pour Dieu, en réalité, nous ne pouvons pas forcer une personne à venir boire à cette source, ni à aller mieux après. Il y a quelque chose qui lui appartient. Jésus le rappelle régulièrement en disant à une personne guérie, « Ta foi t'a sauvé. » Ta foi à toi, à la personne qui était blessée, qui était à terre et qui a pu saisir l'eau, la source. Ta foi à toi, cette soif qui cherche la source toute proche et qui boit, ne serait-ce qu'une goutte pour commencer, ou ce petit coin d'oreille tendu. Et donc, ce n'est pas nous qui pouvons sauver l'autre, cela lui appartient aussi, mais nous pouvons y contribuer. Et il y a de la joie à entrer dans ce service, à être simplement disponible. Il y a du courage, oui, à inviter, à offrir ce qui jaillit un peu de nous et qui nous semble bon, ce qui nous semble venir peut-être de plus grand que nous, ou en tout cas qui nous a fait vivre et qui nous a donné de la joie. Il y a du courage à inviter l'autre à aller chercher, à s'abreuver directement à Dieu peut-être, et ou peut-être à boire à notre source si ça peut l'aider. Oui, cela nous demande du courage, car qui sommes-nous pour donner le moindre conseil à quiconque ? Nous qui avons déjà nos propres difficultés pour vivre. Et puis, quelle pauvre source nous sommes. Et pourtant, nous avons cette promesse qu'il y a de l'eau qui coule, un fleuve d'eau qui coule de notre sein. Si je vois une personne malheureuse, battue par la tempête que nul ne conseille, ne console, alors, tendant l'oreille vers le murmure que Dieu m'adresse, peut-être que je me dirai, mais est-ce que par hasard, Dieu ne m'envoie pas un peu vers elle ? Et puis sinon, si ça ne marche pas, tant pis, au moins, j'aurai essayé. Amen.